Alors c'est vrai, c'est une joie, c'est un honneur pour moi d'apporter le message lors de cette matinée un petit peu spéciale. C'est vrai que c'est toujours un bonheur de célébrer un baptême. Moi, ce que je préfère, je ne sais pas si vous le partagez, mais c'est le moment où le baptisé raconte son témoignage. C'est tellement enthousiasmant, c'est tellement rafraîchissant. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et là, aujourd'hui, c'est Emma qui a fait cette démarche. Et merci à elle, parce que je sais que ce n'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde. Et je sais de quoi je parle. Alors, Alissa et moi, en plus, on est à la même réunion, à la réunion maison que Sandrine et David. Et à plusieurs reprises, on a prié pour leur fille. Et forcément, on a été aux premières loges quand ils nous ont annoncé avec beaucoup d'émotion que Emma avait décidé de suivre Jésus. Alors ça nous touche encore davantage quand on porte quelqu'un dans la prière et qui fait ce choix de devenir le témoin devant l'Assemblée de l'amour de Dieu pour lui. Alors par contre, Sandrine et David, je ne vous cache pas que j'ai une petite inquiétude. Et je crois que c'est bien que je puisse vous la partager. Quand je vois le nombre d'invités ce matin pour ce baptême, je me dis combien ils vont être le jour où une de leurs filles va se marier. Alors un conseil d'amis, commencez les plans de table parce que ça va prendre un peu de temps. Et puis je m'y connais un peu, un petit plan d'épargne mariage, ça peut aider aussi. Hein, il faut être prévoyant là-dedans. En tout cas, c'est super que vous soyez tous là, famille, amis, habitués. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue. Alors, j'ai réfléchi un long moment. Je me suis dit, mais de quoi je vais leur parler ce matin? C'est pas évident de s'adresser comme ça à des chrétiens qui sont convertis depuis des années, mais aussi à des invités qui ne mettent jamais les pieds dans une église, si ce n'est pour les bons moments, hein, comme un mariage, un baptême, ou aussi parfois les mauvais moments, quand une personne nous quitte. Pas évident de partager un sujet avec vous, un sujet qui nous intéresse tous. Alors, j'ai finalement choisi de prendre un risque ce matin. J'ai pris le risque de soulever la question ultime. La question que tout le monde dans cette pièce se pose, ou en tout cas doit se poser. Pour lever le doute, je ne pense pas à la question « Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde de rugby ?» Ça, je connais déjà la réponse. Je pense à la question fondamentale que tous les êtres humains ont forcément dans le coin de leur tête à un moment donné. Quel est le sens de ma vie? Vous avez dit que je prenais un risque, hein? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? C'est une question qu'il faut se poser. La vie, elle passe tellement vite. Avec Christophe Grenèche, c'était le week-end dernier, hein, on en parlait, on disait, mais en plus j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus ça s'accélère. Bah, je sais pas, moi, quand j'étais enfant, le 30 juin, là, il y avait les grandes vacances devant nous, on avait l'impression qu'on avait le monde qui était à nos pieds. Aujourd'hui, je cligne des yeux, c'est déjà le mois de septembre, quoi. C'est incroyable comme la vie passe vite. Il y a des grandes étapes dans la vie. On se souvient de les rentrées en collège, dès l'entrée en lycée. On se souvient la première fois où je me suis retrouvé seul dans ma voiture avec mon permis, la Renault 21 devant moi, là. Waouh, le sentiment de liberté. C'était une étape dans ma vie. On se souvient la première fois où on vous appelle monsieur. C'est bizarre. Moi, cette semaine, j'ai passé une étape importante. Pour la première fois, attention, j'ai dû lever mes lunettes et prendre du recul pour voir quelque chose. Ça m'a fracassé. J'ai dit, ça y est, j'y suis. Ça y est. Alors, ça a fini par me convaincre. J'ai dit, il faut que tu leur parles de ça. Il faut que tu leur parles de ça. Alors, ma petite réflexion, c'est juste ma réflexion, hein, j'ai essayé de recenser les grandes familles de réponses qu'on pouvait avoir à cette question fondamentale. Quel est le sens de ma vie? J'en ai recensé 4. Il y en a peut-être d'autres, il y en a même sûrement d'autres, mais je pense qu'avec 4, on ratisse déjà pas mal. Quel est le sens de ma vie? Alors, première diapo, première réponse possible. J'en sais rien et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y penser. C'est une réponse qui se respecte, une réponse intéressante, pourquoi pas. C'est peut-être une réponse que certains d'entre vous pourriez donner, là, de façon spontanée. Il y a des questions qui dérangent, hein, et peut-être que celle-ci, elle en fait partie, et du coup, on peut préférer de ne pas y penser. J'avoue malgré tout que cette réponse, elle me surprend. Car je me demande comment on ne peut pas réfléchir à cette question quand on est au calme, seul, dans son bain, dans son lit. Comment la question du sens de la vie Elle ne peut pas pointer le bout de son nez de temps en temps. Alors c'est vrai que notre société, elle a trouvé une parade à ça. Elle nous occupe. Elle propose toujours à notre esprit, à notre cerveau, quelque chose qui lui permet de ne pas trop penser à cette question. Il y a John Lennon qui a dit, c'est pas la Bible, c'est John Lennon, il dit « La vie, c'est le truc qui passe quand tu es occupé à faire autre chose. » Alors c'est vrai, moi je peux toujours avoir sous la main mon téléphone et scroller, je sais pas si c'est le terme qu'on emploie là comme ça, pour trouver une occupation. J'ai toujours une petite série Netflix à mater pour éviter de me retrouver seul face à moi-même. J'ai toujours du travail pour faire marcher mon cerveau en continu. Si je le désire, ça ne peut jamais s'arrêter. Et du coup, ça peut me conduire à donner cette réponse. Ça ne m'intéresse pas, je suis trop occupé pour penser à ça. Mais cela dit, il y a un truc surprenant. Je travaille dans une banque et je suis manager d'une petite équipe. Et donc, régulièrement, on me propose des formations pour être un meilleur manager, un meilleur responsable. Et dans mon métier, s'il y a bien une des choses qu'on me demande de faire constamment, et en particulier avec les jeunes générations, c'est de donner du sens. Il semblerait même que ce soit la clé ultime, celle qui unit les équipes vers un objectif commun, celle qui motive, celle qui permet d'aller de l'avant. Alors, dans mon métier, plus spécifiquement, moi, je dois analyser des demandes de financement qui m'arrivent, qui sont faites par nos clients, et je dois regarder si on peut accorder le prêt ou si, au contraire, il représente trop de risques pour la banque. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, si lorsque j'accueille un jeune là, qui vient apprendre ce boulot, je lui dis « Voilà, mon gars, tu vois cette pile de dossiers ? Ben, tu l'ouvres. Tu regardes les revenus du gars, son endettement, tu regardes les ratios financiers, les garanties qu'on peut prendre, et tu dis oui ou tu dis non. Qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ? T'en prends un autre, et tu dis oui ou tu dis non. » Déjà que la banque elle a du mal à accueillir les nouveaux collaborateurs, si je tiens ce genre de discours, je le perds, le gars, il va se barrer. Quel intérêt, franchement. Si par contre, j'explique à ce jeune homme qu'il va avoir une grande responsabilité, il va avoir une délégation qui lui est confiée, qui va lui permettre de décider, de participer au financement de son territoire, qui va être un acteur majeur pour la création d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle boutique dans sa ville, qu'il va pouvoir accompagner des clients qui vont concrétiser leur projet de toute une vie ou acheter la maison de leurs rêves, ben là, ce n'est plus le même métier. J'ai donné du sens à son action. J'imagine que vous avez déjà entendu ça dans vos emplois, et je crois que c'est bien, je crois que c'est une bonne démarche, il n'y a pas de problème avec ça, et il n'y a rien de plus frustrant, je pense, que de passer 8 heures par jour à bosser sur un truc dont on ne saisit pas l'enjeu, sans en saisir le sens. Alors je me dis, si on a besoin de sens pour être motivé dans son travail, est-ce qu'il ne faut pas non plus réellement se poser la question du sens de la vie ? Est-ce qu'en donnant la réponse « ça ne m'intéresse pas », est-ce que je ne suis pas un peu en train de fuir finalement ? Est-ce que ce n'est pas le moyen d'éviter une question qui me dérange ? Et elle me dérange parce qu'au fond de moi, je sais qu'elle est importante, mais je n'ai pas de réponse. Quand je vois le temps que je peux passer et qu'on peut tous passer avant d'acheter une nouvelle télé, c'est un petit budget, alors je ne veux pas me tromper. Je regarde les avis, je regarde les tests, je regarde les spécificités, je me passe des vidéos YouTube, là, des gens qui connaissent tout. Je veux faire le bon choix. Ça vous arrive aussi, j'imagine, quand vous faites ce type d'achat. Il ne faudrait pas prendre un tout petit peu de temps pour se poser la question de à quoi sert ma vie ? De savoir est-ce que je fais le bon choix dans ma vie ? Alors si vous faites partie de ces personnes qui spontanément disent « ça ne m'intéresse pas », j'aimerais, moi, vous encourager à vous déconnecter, à faire un break, vous laisser le temps de rechercher. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver. C'est le principe de la recherche, d'ailleurs. Mais au moins, vous rentrez dans l'action. Il y a aussi une variante, elle en a un petit peu parlé, Emma, tout à l'heure, à cette réponse possible, c'est « Oh, moi, je suis trop jeune pour penser à ça. Hein, » Elle a dit « Je vais faire mes décisions et puis après, on verra plus tard. » Ça, je l'ai entendu des milliers de fois. Alors, on partirait du principe que trouver le sens de la vie peut empêcher d'en profiter ? C'est étrange de le dire, même de le dire, moi ça me choque. Et imagine, tu trouves la réponse à 80 ans. Et justement, cette réponse, elle remet en question tout ce que tu as vécu. Assez ballot quand même, franchement. Alors, je renouvelle mon conseil. Cherche, et cherche maintenant. Alors, il y a la deuxième réponse possible. La vie n'a absolument aucun sens. Pourquoi elle en aurait ? De toute façon, tout n'est que hasard, alors laisse-moi profiter d'aujourd'hui. Ici, on est a priori sur un profil de personne qui a réfléchi à la question ultime et qui est arrivé à une conclusion. La conclusion que la vie n'a absolument aucun sens. Alors bien sûr, si on part de ce postulat, que tout n'est que hasard, moi je comprends la philosophie qui est de dire ben, « je vais profiter aujourd'hui, hein, parce que demain je vais mourir ». Qu'importe les conséquences, étant donné que tout ça n'a pas de sens, alors je vais essayer de goûter un peu de plaisir ponctuel là, dans ma brève existence, sans utilité. Pour pouvoir donner une réponse comme celle-ci, la vie n'a aucun sens et tout est hasard, il faut donc partir d'un postulat. Le postulat que notre vie est un accident, que le monde est un accident, que la nature est un accident. Et donc forcément que toi, que moi, nous sommes des accidents. C'est aussi partir un peu du postulat que tout est issu certainement d'un grand Big Bang, venant lui-même de je ne sais pas trop où, et sur lequel on a eu une chance extraordinaire, ou une malchance extraordinaire. Selon les points de vue, toute la vie s'est mise en place. Et elle nous offre quelques dizaines d'années pour faire des expériences, mauvaises ou bonnes, et puis elle s'éteint, sans aucun sens. La vie n'a donc pas de but. La vie n'a donc pas de raison d'être, pas de signification. Il n'y a ni bien, il n'y a ni mal. Alors, profitons, sans trop réfléchir, si on y arrive un peu avant que la lumière elle s'éteigne. Réfléchir comme ça, ça éveille en moi pas mal de tristesse. Mais certains diront, il vaut mieux être triste que dans l'utopie. Jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve l'existence de Dieu. D'ailleurs, les personnes qui ont ce type de réponse et qui discutent avec un croyant, ils vont souvent dire « Mais vas-y, prouve-moi que Dieu existe. Prouve-moi et après je me poserai la question. » Voilà souvent ce que j'ai entendu. Vous savez, moi, quand je vois tout simplement le miracle d'une naissance, et les sages-femmes, elles en parleraient bien mieux que moi. Mais tout, absolument tout, a été prévu pour la vie. Tout a été pensé exactement pour qu'un nouvel être puisse venir sur Terre. Moi, j'y vois un miracle. La preuve absolue qu'il y a un créateur. Vous savez, quand je vois tout simplement la beauté de ma Terre, le bon taux d'oxygène, le bon niveau d'eau, le bon niveau de température, les paysages incroyables, tout a été prévu pour moi comme pour un cadeau. Un cadeau dont nous devons prendre soin d'ailleurs. Eh bien moi j'y vois un miracle. La preuve absolue qu'il y a un créateur. Vous savez, quand je vois tout simplement la beauté de notre corps humain, mais aussi sa complexité, quand je vois comment il est élaboré, quand je le vois se développer, comment il se rétablit quand je me fais mal, quand je vois comment mon cerveau fonctionne et ce qu'il peut inventer, eh bien, moi, j'y vois un miracle. La preuve absolue qu'il y a un créateur. J'ai trouvé ça chez moi, dans la salle de jeu. C'est sympa. Alors, quand je vois ça, quelles sont les questions qui nous viennent à l'esprit ? Est-ce que c'est « prouve-moi que quelqu'un a fait ça » ? Ah, mais c'est vrai ! Attendez, on ne sait jamais. Imaginez, un gars, il rentre dans la salle de jeu. Il fait tout noir. Il y va à tâtons, là, comme ça. Il ne voit pas qu'il y a la boîte de Lego qui est devant lui. Il avance, il trébuche, et les Legos sont renversés. En allumant la lumière, il se rend compte que tout ce bazar a formé ce dinosaure. Waouh ! prouve-moi que quelqu'un a fait ça. Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de se demander qui a fait ça ? Comment il a fait ça ? Et peut-être même que vous trouverez le modèle là-dedans. Finalement, pour donner cette réponse, la vie n'a pas de sens et tout est hasard. Moi, je trouve qu'il faut une sacrée dose de foi, une foi qui est plus grande que la mienne. Car tu penses que si je reprends les pièces de Lego, c'est exactement ça, je n'ai pas fait exprès, mais, et que je les lance, il y a des chances que ça refasse une girafe, ou un dinosaure, pardon. Ne dites pas que j'ai dit une girafe à mon fils, sinon il va... un dinosaure. Il faut une sacrée dose de foi pour penser ça, waouh. Oh merci, tu me sauves la vie. Il faut une sacrée dose de foi pour penser que la vie est un coup du hasard. Peut-être faut-il inverser la charge de la preuve. Prouve-moi qu'il n'y a aucun Dieu créateur maintenant. Peut-être au lieu de demander que quelqu'un prouve l'existence de Dieu, faudrait-il réfléchir aux preuves que Dieu n'existe pas ? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Réfléchissez-y. Alors, l'argument, bien sûr, qui vient, parce que je l'ai entendu des milliers de fois, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas autant de maladies, etc. Et pourtant, on est dans un monde qui rejette la présence de Dieu, qui rejette son propre créateur, qui est tombé dans un égoïsme sans précédent, qui détruit même le cadeau de la terre par amour de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'on constate des dérives, que l'on constate des catastrophes ? Il a une image que j'adore, moi. Tu vois, peut-être tu peux venir ? Oui, toi, je t'ai pas prévu. J'ai pris un costaud exprès. Si, imaginons que je lui donne un gros point dans sa figure. Bam ! Et je lui dis, tu iras te plaindre à Dieu. Hein, c'est sa faute. Voilà, c'est ça qu'on, c'est notre argument quand on dit, si jamais il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, etc. C'est l'homme qui provoque ça, c'est le péché de l'homme qui provoque ça. Donc, quand je lui donne une baffe, s'il m'en retourne une, ça sera les conséquences de ce que j'ai réalisé. Et ça, il faut qu'on le garde en tête. Et je ne vais pas le faire parce que je tiens à ma vie. L'homme est responsable de ses actions, il subit les conséquences de ses actions et il blâme Dieu. Waouh ! On va lire Romains 1, verset 20. Il n'est pas facile pour ceux qui ne sont pas croyants, je suis désolé, mais il fallait que je le mette. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, détiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et dans la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce verset, je vous l'ai dit, il est peut-être un peu sévère pour les personnes qui sont dans cette catégorie de réponse. Elle explique que la puissance et la réalité de Dieu, elle se voit juste en ouvrant les yeux, en regardant la création. La perfection de Dieu, elle est juste là, devant vous, depuis toujours. Mais il y a des hommes qui ne la reconnaissent pas. Et ça, ça le met en colère, d'ailleurs. Mes amis, la Bible, elle explique pourquoi le monde, il est en décadence. Je vous encourage à la lire et vous trouverez du coup des réponses à cette question-là. Et peut-être d'ailleurs que vous trouverez la preuve qui vous manquait. Diapo numéro 3, troisième possibilité de réponse. La vie a-t-elle un sens ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question et on s'en fout. L'important, c'est que toi, tu trouves ton propre sens, ta propre vérité. Ça, c'est la réponse très à la mode. Et je peux la comprendre parce qu'elle correspond à l'ère du temps. On est dans une époque où on nous encourage à faire ce que l'on veut, à se moquer du regard des autres, à n'écouter que ses envies. Tant dans lequel il n'y a pas une vérité, mais il y a une multitude de vérités, chacun à la sienne. Et je trouve même que ça vient dénaturer le mot « vérité ». Alors du coup, étant donné qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, que finalement tout est valable, si ça te fait du bien, tu peux aller chercher du sens là où tu veux, là où ça te fait plaisir. Alors le grand classique, là, c'est trouver du sens par l'argent, hein, gagner de l'argent, toujours plus d'argent pour acheter plus de choses pour être plus confortable, plus de confort pour impressionner mon voisin, et me faire une vraie place, comme si les choses et l'argent pouvaient me donner une identité. et nous révéler le sens profond de la vie. Vous connaissez cet adage, hein ? Ne perds pas ta vie à vouloir la gagner. C'est ce que représente ce dessin derrière moi. Et pourtant, il y a combien de personnes que nous connaissons dont le sens de la vie tourne autour du besoin de s'enrichir. Rien que de le dire, je comprends que ça ne peut pas être la bonne réponse. Et pourtant, c'est un piège dans lequel beaucoup nous tombons, parce que ça nous accapare et ça peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Il y a une autre réponse un peu différente, et qui est, celle-ci, elle est beaucoup mieux vue d'un regard humain. C'est le sens de ma vie, c'est que mes enfants soient heureux. Je vis pour qu'ils aient une belle vie. Je me donne pour qu'ils puissent accéder à ce que je n'ai pas eu. Les enfants, ça parle à beaucoup d'entre nous, hein. Combien ils sont précieux, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais est-ce qu'ils peuvent répondre à la réponse au sens de la vie ? Qu'est-ce qui se passe quand ils quittent le foyer pour fonder leur vie ? À leur tour, ils doivent trouver un sens à la vie avec leurs propres enfants ? Honnêtement, la réponse, elle est jolie, elle me plaît. Et la famille, c'est important. Mais ça ne peut pas être la réponse à la question fondamentale. Il y a une autre tendance très à la mode. Tu trouveras la vérité en toi. Cherche au plus profond de toi et trouve la sérénité et la paix intérieure. Alors cette semaine, je suis allé dans ma salle de pause. Je remplis mon verre d'eau le matin et je me suis retrouvé devant un nombre incroyable de publicités, les prospectus qui sont affichés pour le yoga, pour la méditation, pour le coaching psychologique et tous y font la promesse de retrouver le calme intérieur. Le retour à la source de la plénitude serait dans mon fort intérieur. Alors autant, je vous avoue qu'en famille, je m'y connais pas mal, hein, j'ai 4 enfants, autant en yoga, j'y connais pas grand-chose. Et j'imagine que cela peut permettre de calmer les nerfs, ça peut travailler la souplesse, quand je vois les pauses qu'ils prennent, là, c'est waouh pour moi. Ça permet de prendre du recul, de se poser. Mais je suis très sceptique sur le fait qu'en me focalisant sur moi-même, j'arrive à trouver le sens de ma vie. Ce sens, il doit être plus grand que moi. Honnêtement, entre nous, est-ce que l'on peut imaginer que la réponse à la question ultime que l'homme se pose depuis toujours trouverait sa réponse dans quelque chose qui est au fond de nous ? En tout cas, moi, cela ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait pas non plus que chacun puisse avoir sa propre réponse à cette question-là. Peut-être que c'est plus facile, c'est clair que c'est plus facile. Peut-être que ça permet de ne pas se fâcher, c'est sûr que ça ne permet pas de se fâcher. Mais c'est dans l'air du temps en plus. Mais ça ne me paraît pas satisfaisant. On pourrait en parler des heures. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent se positionner au centre de nos vies, devenir les uniques sources de motivation de nos actions, obtenir du pouvoir, soigner son image, gagner en réputation, trouver l'amour d'une femme ou multiplier les conquêtes. Il s'agit des buts que l'on peut rechercher. Et d'ailleurs, ils ne sont pas mauvais en soi. Mais de là à dire qu'en les atteignant, on comprend le sens de la vie, je ne partage pas. Dernière possibilité. J'ai été créé pour un but. Un créateur m'a fait le cadeau de la vie et ma vie aura du sens si je vis ce pourquoi j'ai été créé. Alors, bien entendu, on est dans une église et beaucoup de personnes ici présentes ont choisi cette réponse. C'est la réponse qu'Emma a choisie en se faisant baptiser. Et je vais forcément donc terminer en développant cette question-là. Tout d'abord, pour que ma vie ait un sens, il faut qu'elle ait été voulue. Il ne faut pas qu'elle soit le fruit du hasard. Il ne faut pas qu'elle soit le fruit d'un coup de chance, mais qu'il y ait un véritable créateur. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Ma conviction, c'est que je suis une créature de Dieu. La Bible, elle me dit d'ailleurs que je suis fait à son image. Le point fondamental pour que ma vie ait un sens est de savoir que je ne suis pas là par hasard. Ma naissance n'a ni été une erreur et ma vie n'est pas un accident. Vous vous rendez compte comment c'est libérateur d'avoir cette certitude au fond de moi ? Dans la Bible, il y a un verset que j'apprécie tout particulièrement et qui me le rappelle souvent. La Bible me dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ma vie est dans ses mains et ça me fait du bien. Dans Colossiens 1, verset 16, je peux aussi lire « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils partent généralement d'un mauvais point de départ. Leur point de départ, c'est souvent eux-mêmes. Ils se demandent « Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs ?» Je vous le dis, ce n'est pas en se centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de la vie, mais au contraire, en regardant au Créateur et en cherchant ce qu'il a prévu pour nous. Même chez les chrétiens, je vous alerte, il y a un risque d'utiliser le Seigneur pour se réaliser. Et c'est contraire à l'ordre des choses. C'est voué à l'échec. J'ai été fait pour Dieu, et non l'inverse. Pratiquement, cela consiste à laisser le Seigneur se servir de nous afin d'accomplir ses plans, et non d'avoir recours à lui pour nos projets personnels. C'est ce que disait Emma quand elle était plus jeune. Elle le sortait dès qu'elle en avait besoin de sa petite boîte. Dieu, j'ai besoin de toi, là. Il y a beaucoup de livres qui nous propose de découvrir le sens de la vie. Ce sont souvent des livres qui sont égocentriques parce qu'ils traitent le sujet en partant de la mauvaise personne. Ils recommandent de réfléchir à nos rêves, de déterminer nos valeurs, de fixer nos objectifs. Ils nous recommandent de viser haut, de passer à l'action sans baisser les bras. Cette attitude, elle n'est pas mauvaise en soi, il n'y a pas de problème. Mais elle permet d'atteindre des objectifs des fois. Mais ce n'est pas ça, découvrir le sens de la vie. Nous avons été faits par Dieu. Et pour Dieu. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, la vie n'aura aucun sens. Attendez, ça va encore plus loin. Alors je sais maintenant que j'ai été voulu, j'ai été créé. Mais si ça s'arrêtait là, ça aurait un petit goût d'inachevé. En plus, je sais que le Dieu créateur tout-puissant de la terre et des étoiles est aussi celui qui m'aime. Combien de gens passent leur vie dans une recherche désespérée de l'amour? Combien de vies sont détruites parce que des personnes n'ont pas ressenti l'amour de leurs parents et n'ont pas pu bien se construire? Moi, mon Dieu, il m'aime, même quand je déconne. Et je peux vous dire qu'il n'arrive pas un jour sans que je fasse quelque chose de mauvais, sans que j'aie une pensée malveillante, même si vous ne le voyez pas, qui est dans mon cerveau, ou que je raisonne de façon égoïste. Cet état de fait, cette méchanceté, elle est dans ma nature. Elle est dans la nature de l'homme. Et c'est ça qui l'a éloigné de Dieu. Parce que lui, il est parfait, il est saint. Mais Dieu avait un plan. Et il est allé loin pour me permettre d'avoir accès à lui, malgré toute cette pourriture qui est en moi. Il a donné son fils Jésus, qui était le seul être, sans défaut. Le seul qui pouvait faire le lien. Pas juste donner comme ça. Mais pour prouver son amour, il a livré aux mains des hommes. Ils l'ont crucifié alors qu'il n'avait rien fait. C'est le comble de son amour. Vous voyez, ma vie commence à avoir du sens. Je sais que j'ai été créé. Je sais que j'ai été voulu. Je sais que j'ai été aimé à un grand prix. Ça ne s'arrête pas là. Je sais que je suis utile. Je sais que j'ai une place. Je sais que j'ai une mission. Je suis utile parce que Dieu, il me demande d'aider. Il me demande d'aimer mon prochain. Il me demande de prendre soin de lui. Pour m'épanouir, il me donne des frères et des sœurs qui sont beaucoup sont présents là aujourd'hui et qui m'encouragent aussi dans ma vie de tous les jours. J'ai une place parce que Dieu me dit dans sa Bible que je fais partie d'un corps dont il est la tête. Je suis peut-être une de ces pièces de Lego là, dans sa création, qui ne ressemble pas à grand-chose toute seule. Mais j'ai ma place. Je fais partie d'un tout bien plus grand que moi. Mais si je ne suis pas là, la structure, ce n'est pas tout à fait la même. J'ai ma place dans son œuvre. J'ai ma place dans son église. Et je lui demande souvent, avec ma petite forme, de le servir au mieux. J'ai une mission. Celle d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors ne vous y trompez pas, hein. J'ai une vie à fond la caisse. Comme la vôtre, les quatre enfants de partout, le bazar à la maison, mes dossiers de crédit à qui il faut dire oui ou non. Mais dans ce cadeau de la vie qui m'est donné, à mon rythme, à la cadence de ma vie, eh ben, j'essaie de le suivre. J'essaie d'aimer mon prochain. J'essaie de servir mon église. J'essaie d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Je terminerai par ça. Nous avons en nous un instinct qui aspire à l'immortalité parce que Dieu nous a créés à son image afin de vivre éternellement. Attention, dans cette église, on n'est pas des illuminés. On sait tous que tout le monde va finir par mourir. Mais au fond de nous, si vous réfléchissez là, vous n'êtes pas d'accord pour dire que la mort, elle apparaît un peu contre nature, elle apparaît un peu injuste. Moi, je crois que oui, parce que Dieu a mis en nous le désir de vivre pour toujours. Cette semaine, j'ai écouté une chanson de Ben Mazuet que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez ce chanteur-là. Et cette chanson, elle s'appelle « Un homme ordinaire ». Plus il parle avec une jolie mélodie derrière. Et dans cette chanson, il dit « Je sais que je vais mourir, mais je continue souvent à agir comme si j'allais être éternel. Je sais que je vais mourir, et pourtant je peux passer ma matinée à essayer de régler un problème qui n'en vaut pas la peine. Je ne suis pas très original. » Ces paroles, quand je les écoute, elles sont empreintes de mélancolie, parce qu'elles mettent en avant la futilité un peu de la vie, quand on occupe notre temps à des choses futiles, alors qu'on va mourir. Mon espérance, ma foi, c'est que la mort, ce n'est pas une finalité. Au contraire, c'est là que je vais enfin rencontrer mon Créateur. J'ai besoin de savoir que tout ne s'arrête pas comme ça, que ma vie, elle ne va pas faire pchit, un jour. Hier, j'étais là, demain, je ne suis plus là. Alors, que sera l'éternité avec Dieu ? À vrai dire, je ne peux pas vous donner de réponse. La Bible, par contre, elle nous donne un verset qui me fait du bien et qui me donne cette espérance. Elle dit « Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Il faudrait tellement de dimanches pour parler de tous ces sujets en profondeur, vraiment. Ce matin, je voulais juste vous faire réfléchir. Je ne sais pas quelle réponse vous donner aujourd'hui à la question fondamentale. Mais s'il vous plaît, ne la fuyez pas. Posez-vous cette question capitale. Il y a beaucoup trop de personnes qui se la posent à la fin de leur vie. Et souvent, elles sont empreintes d'un lot de regrets. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, confronter vos idées, il faut en parler avec des gens, des amis qui sont chrétiens. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, il y a une annonce, mais il y a ce qu'on appelle un cours alpha. Cours alpha, c'est vous venez, vous dites tout ce que vous pensez. Il n'y a pas de jugement et on donne aussi le point de vue chrétien. Mais c'est important d'y penser, d'y réfléchir. Alors j'aimerais tout simplement terminer ce message en vous demandant de vous lever et je vais prier pour vous. Seigneur, je te remets chaque corps, chaque âme, chaque esprit ici présent ce matin, Seigneur. Je te demande vraiment de parler à nos cœurs, Seigneur. Je te demande d'être là quand on sera prêt à ouvrir nos cœurs, à entamer cette recherche, Seigneur. Seigneur, je te demande, comme tu l'as fait pour Emma, Seigneur, des signes clairs pour ceux qui sont dans une démarche de recherche, qui se posent des questions, Seigneur. On a besoin parfois de ça, Seigneur. Mais aussi permets-nous de nous rappeler comment la création est bonne, Seigneur. Comment la création est belle, Seigneur, et cette preuve que tu nous donnes au quotidien, que tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci parce que je te demande de nous renouveler, Seigneur, de nous chahuter, Seigneur, au fond de nous, dans nos tripes, Seigneur, pour qu'on vienne à l'essentiel, Seigneur. Qu'on arrête de se focaliser sur les choses qui n'ont pas d'utilité, qu'on laisse de côté nos portables et nos séries Netflix, Seigneur, mais qu'on prenne du temps cette semaine face à toi, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, dans ta grande bonté, Seigneur Jésus, de te manifester à nous, Seigneur, et nous donner des convictions, Seigneur. La conviction qu'on a été créé par toi, aimé par toi, voulu par toi, utile, Seigneur Jésus. Et qu'en plus, tu nous promets une vie éternelle à tes côtés, Seigneur. Amen.